Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 12 mars 2021. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. La Confédération africaine de football a un nouveau président. Le Sud-Africain Patrice Motsepe a été élu sans bavure. Nouvel enlèvement massif d'élèves au Nigeria. Cela s'est passé dans l'état de Kaduna, dans le nord. L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, inculpé pour corruption, devra désormais se présenter à la police 3 fois par semaine. Le président Joe Biden lance une offensive avec les alliés américains du Pacifique pour contrer l'influence chinoise en Asie du Sud-Est. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. C'était sans surprise, le Sud-Africain Patrice Motsepe a été élu comme prévu et par acclamation président de la Confédération africaine de football à Rabat. Il était le seul candidat. Le point avec Bagasikoura.
Oui, ce fut un plébiscite. Les autres candidats s'étant rangés derrière lui sous l'impulsion de la FIFA. L'homme d'affaires patron du club des Mamelodi Sundowns s'est levé, a baissé son masque et a salué l'Assemblée dans un costume bleu pétrole. Motsepe a brièvement exprimé sa gratitude pour ce très grand honneur. Il a promis de travailler dans l'unité, le maître mot de la journée, martelé également par le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino. Car le choix de ce milliardaire très occupé, méconnu et parrainé par le patron de la FIFA fait grincer des dents sur le continent. De nombreux observateurs y décèlent une ingérence et des relents de colonialisme. Mais aucune voix dissonante ne s'est exprimée durant cette 43e Assemblée générale de la CAF. Dans son allocution liminaire, Infantino a défendu la version de la FIFA de cette drôle d'élection. Elle ne veut pas contrôler la CAF, mais favoriser l'unité. Les 3 autres candidats déclarés à l'automne, Augustin Senghor du Sénégal, Ahmed Yahia de la Mauritanie et Jacques Hanouma de Côte d'Ivoire, se sont tous retirés dans la quinzaine précédant le scrutin contre la promesse de poste respectivement de premier et deuxième vice-président, le conseiller de Motsepe.
Au Nigeria, des hommes armés ont encore attaqué hier soir une école dans le nord du pays. Selon la police locale et des habitants, ils ont enlevé plusieurs élèves dont le nombre exact reste à confirmer. Les précisions de John Lyndon.
Des hommes armés ont attaqué hier soir un établissement secondaire de la localité de Mando dans l'état de Kaduna. Environ 300 élèves se trouvaient dans cette école, mais le nombre d'étudiants kidnappés est resté flou ce matin. Le porte-parole de la police de Kaduna, Mohamed Jalig, a dit qu'il y a eu un kidnapping à l'école de formation des eaux et forêts, mais n'a pas précisé le nombre d'élèves enlevés. La police et l'armée essaient de les localiser et de les secourir, a-t-il ajouté. L'intérieur d'État de Kaduna, Wang, s'est rendu sur place. Il a confirmé l'enlèvement est ouverte. Il s'agit de la 4e attaque d'une école en moins de 3 mois dans le nord-ouest et le centre du pays où sévissent des groupes criminels qui pratiquent des enlèvements contre rançon depuis plusieurs années.
En Mauritanie, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz, inculpé jeudi pour corruption et placé sous contrôle judiciaire, devra désormais se présenter au commissariat 3 fois par semaine. Les explications de Claire Morin-Jubourg.
L'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz doit désormais se présenter 3 fois par semaine à la police et s'abstenir de quitter la capitale Nouakchott sans autorisation du juge d'instruction. L'un des avocats de l'ex-président, Taleb Kiar Ould Mohamed Mouloud, s'est insurgé contre cette procédure judiciaire qui, selon lui, est contraire à la Constitution et qui menace l'avenir de la démocratie et de la paix sociale. L'ex-président Aziz a été accueilli à son domicile hier soir par plusieurs dizaines de ses partisans. La justice mauritanienne veut faire la lumière sur des faits présumés de corruption et de détournement de fonds publics pendant ses années au pouvoir, notamment la gestion des revenus pétroliers et la vente de domaines de l'État. Cette inculpation représente une nouvelle étape de la chute de M. Aziz sous son successeur, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dont il avait pourtant préparé l'accession à la présidence. M. Aziz crie au règlement de compte, son successeur invoque l'indépendance de la justice.
Élection présidentielle au Tchad, l'opposant Brice Maimong Gendbaye vient d'annoncer son retrait de la course. Par ailleurs, plusieurs partis politiques de l'opposition, organisations de la société civile et quelques leaders religieux appellent à une marche pacifique demain samedi sur l'ensemble du territoire national. Les autorités équato-guinéennes ont rendu ce vendredi un hommage aux victimes des explosions qui ont ravagé dimanche un camp militaire à Bata et qui a fait 107 morts et 615 blessés. Cet accident pénible causé par l'explosion de dynamite et d'autres explosifs a montré que la paix est très fragile et peut être rompue à tout moment par le comportement irresponsable, ignorant et incompétent de nos concitoyens, a déploré le président Teodoro Obiangema. Le gouvernement a débloqué 10 milliards de francs CFA, soit environ 15 millions d'euros en faveur des victimes, a rappelé le président. Décès en Afrique du Sud du roi des Zoulous Goodwill Zwelithini à l'âge de 72 ans après un demi-siècle de règne. Le roi Zoulou avait été hospitalisé en février souffrant de diabète. Il était un symbole important de l'histoire, de la culture et du patrimoine, a salué le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Personnage controversé, Goodwill Zwelithini a multiplié ces dernières années les remarques xénophobes, désignant les migrants africains comme les responsables de la montée de l'anarchie dans le pays. Il a ordonné en 2015 qu'il quitte le pays. Les chefs traditionnels sont reconnus par la Constitution et continuent à jouer un rôle symbolique en Afrique du Sud. Le premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa a assuré vendredi que le président John Magufuli était en forme et travaillait dur comme d'habitude, balayant les craintes d'une maladie du chef de l'État. J'ai même parlé avec lui ce matin de mon voyage à Njombe et il m'a dit de vous saluer pour lui. Je lui ai parlé par téléphone, a-t-il ajouté. M. Magufuli n'a plus été vu en public depuis le 27 février et ne s'est pas exprimé depuis l'apparition de rumeurs sur les réseaux sociaux l'annonçant gravement atteint du Covid-19.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un sommet virtuel a eu lieu ce vendredi entre le président américain Joe Biden et les premiers ministres australiens, indiens et japonais. Ils ont lancé une initiative commune pour renforcer la production de vaccins contre le Covid-19 en Asie du Sud-Est, première étape d'une offensive diplomatique contre la Chine. Les détails avec Mohamedou Oumfa.
C'est la première fois que le Quad, cette alliance informelle née dans les années 2000 pour contrebalancer la montée en puissance de la Chine, s'est réunie au plus haut niveau. C'est aussi le premier sommet multilatéral que j'ai la chance d'organiser en tant que président, a dit Joe Biden à l'ouverture de la visioconférence. Nous lançons un nouveau partenariat ambitieux pour doper la production de vaccins au bénéfice du monde entier et notamment des vaccinations dans toute la région Indo-Pacifique, a déclaré Joe Biden. Il s'agit de répondre aux graves pénuries en Asie du Sud-Est, a expliqué à des journalistes un haut responsable américain, en nouant des partenariats qui permettront une augmentation drastique des capacités de production de vaccins jusqu'à 1 milliard en 2022. Cet effort s'appuiera en premier lieu sur la production en Inde et sur le vaccin américain Johnson & Johnson. Avec cette initiative, le président américain s'engage à son tour dans la diplomatie du vaccin. Une manière aussi de contenir l'activisme de la Chine dans la région, la Chine qui y multiplie les livraisons de doses de vaccins contre le Covid-19.
Le gouvernement italien annonce ce vendredi le reconfinement d'une grande partie du pays à partir de lundi jusqu'au 6 avril, entraînant la fermeture des écoles, bars et restaurants afin d'endiguer une troisième vague épidémique menaçant de saturer les hôpitaux. L'Italie, qui a passé cette semaine la barre des 100 000 morts dues à la pandémie, enregistre une forte hausse des contaminations et des décès dus en grande partie aux variants britanniques. Jeudi, les autorités ont fait état de 26 000 nouveaux cas et 373 morts en 24 heures. Le chancelier autrichien a accusé ce vendredi certains États membres de l'Union européenne, sans les nommer, d'avoir négocié en coulisses des contrats avec des laboratoires, fustigeant une répartition inégale des vaccins anti-Covid entre pays européens. Pour lui, cela contredit clairement l'objectif politique de l'Union européenne d'une répartition équitable. Il a lancé un appel urgent à la transparence totale. L'Union européenne a pour sa part défendu l'existence d'un mécanisme de distribution des vaccins sur la base du nombre d'habitants. Les organisatrices de la Journée internationale des droits des femmes au Pakistan disent avoir reçu des menaces de mort après une intense campagne de désinformation. Des milliers de femmes ont participé lundi aux marches organisées à cette occasion dans ce pays musulman profondément conservateur. Mais des images trafiquées de l'événement ont rapidement fait leur apparition sur les réseaux sociaux et dans certaines émissions de télévision populaire. Dans une vidéo, la bande son a été modifiée pour suggérer que des participants à la marche organisée à Karachi, dans le sud du pays, chantaient des slogans blasphématoires à l'encontre du prophète Mohammed. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco présentée ce soir par John Linden.
Au Bénin, l'indice des prix à la production des produits vivriers a enregistré une légère hausse de 0,3% au quatrième trimestre 2020 comparé au trimestre précédent selon l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique basé à Cotonou. En République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu un mémorandum de 60 pages de la Fédération des entreprises du Congo relatif aux propositions d'action du gouvernement en faveur du secteur privé. Le document contient notamment les préoccupations des entreprises dans les secteurs essentiels, notamment la fiscalité et l'agriculture. Les entreprises plaident aussi pour la nomination des ministres compétents et qui maîtrisent le secteur. Le plan de relance de l'économie américaine va rayonner bien au-delà des frontières des États-Unis, mais les risques d'inflation et d'un resserrement brutal des taux d'intérêt ne sont pas exclus, disent les experts. Avec une injection de 1 900 milliards de dollars, le plan de sauvetage américain, dont le texte de loi a été signé jeudi, devrait aussi aux États-Unis dynamiser la croissance de 5 à 6 % sur 3 ans, selon une estimation préliminaire du Fonds monétaire international.
À présent, la page des sports avec Élisée Mbati.
Bonsoir à tous. Patrice Motsepe est élu président de la Confédération africaine de football. Le Sud-Africain, seul candidat en lice, a été désigné par proclamation président de l'instance qui gère le foot en Afrique pendant la 43e Assemblée générale de l'organisation à Rabat. Premier Sud-Africain et le premier anglophone à occuper ce poste, le milliardaire succède au malgache Ahmad Ahmad, suspendu 2 ans de toute activité liée au foot. Une assemblée générale qui s'est tenue en présence de Gianni Infantino, président de la FIFA, qui a œuvré pour que Motsepe soit le seul candidat en lice avec les désistements de l'Ivoirien Jacques Anouma, du Sénégalais Augustin Senghor et du Mauritanien Ahmed Yaya.
C'est pour moi aujourd'hui un véritable plaisir d'être ici à Rabat, au Maroc, avec vous pour ce 43e. Aujourd'hui, c'est important de mettre ensemble ces deux mots, unité et équipe. Parce que en équipe, ensemble, on gagne. Seul, on perd.
Pour relancer l'institution créée en 1957 et basée au Caire, Motsepe pourra s'appuyer sur 5 vice-présidents contre 3 sous Ahmad. Une augmentation pour assurer une meilleure représentativité des différentes composantes de la CAF. Outre l'élection du président, la CAF désignait également les membres de son gouvernement et de ses représentants au Conseil de la FIFA. Il faut noter que le comité exécutif de la CAF aura déjà un premier dossier à régler, la CAN des moins de 17 ans que la Zambie demande à organiser. L'instance fêtière a annoncé l'annulation de cette compétition à quelques jours de son coup d'envoi suite à la fermeture de l'espace aérien marocain avec plusieurs pays qualifiés pour cause de Covid-19. La Zambie, qui fait partie des qualifiés, a écrit à la CAF en lui proposant d'organiser la compétition à la place du Maroc. On prend la direction de l'Égypte pour dire que le Zamalek du Caire a officialisé le retour de Patrice Carteron à la tête de l'équipe de football 6 mois après son départ. Le technicien français qui vient de quitter Al Taoun succède à Jem Pacheco, limogé juste après le match disputé en championnat face à Cléopatra. Et puis pour finir, Angel Di Maria prolonge son contrat au PSG d'une année plus une seconde en option. En fin de contrat cet été, le milieu de terrain offensif de 33 ans l'a prolongé ce vendredi. En discussion depuis l'an dernier, les deux parties s'étaient mises d'accord sur le principe de poursuivre l'aventure ensemble dès la fin 2020, mais il restait quelques détails à finaliser qui ont été bouclés ces dernières heures. L'Argentin est arrivé dans le club de la capitale française en 2015.
écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, au lendemain de la mort du Premier ministre et ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, les réactions se multiplient. À Boaké, on rend hommage à cet homme politique apprécié par les jeunes et les artistes. Témoignage de certains habitants de cette ville du centre de la Côte d'Ivoire, au micro de notre correspondant Siriki Barrow.
Je suis Lémane Eichatou, étudiante à l'Université Alassane Ouattara en communication. Ahmed Bakayoko, c'est un grand homme. Il a, de par son parcours, voilà, il a su influencer assez de personnes, notamment les jeunes. Je suis à Boaké actuellement, mais je viens d'Abidjan, précisément à Bobo. Et là, on peut se rendre compte de ces différentes réalisations. Les dames, on va dire, elles le vénèrent en fait. Elles le vénèrent, il a fait ci pour Bobo, il a fait ça. Et sincèrement, la mort du gars me fait mal parce qu'on ne sait plus qui va faire quoi pour Bobo en fait. Voilà, c'est quelqu'un, il a su mettre, on va dire, l'accent, ce sur quoi repose, on va dire, le développement d'un pays, les jeunes. Voilà, et respect pour ça, quoi. Respect pour ça.
Ahmed Bakayoko, c'était un pilier d'abord pour la jeunesse ivoirienne. Et puis, c'était, on peut dire, un élément incontournable aussi du gouvernement. Et aussi pour nous aussi, gars, c'était un modèle aussi. Il a fait plusieurs réalisations dans des communes telles que Abobo, partout. Il était député encore tout récemment encore. Donc, on peut dire que c'était un grand homme aussi, un très grand premier ministre. Il avait un charisme. Il était aimé par tout le monde, par sa bonne foi et par sa bonne humeur. Et en plus encore, c'était un très grand homme parce que s'il comprenait les autres, il aidait aussi ceux qui pouvaient aider, il aidait à réaliser des projets aussi pour tout au Côte d'Ivoire.
Traoué Abiba, en tout cas, Ahmed Bakayoko, c'est un homme qui est très, très, très gentil. En tout cas, il est bien, il a fait du bien aux gens, en tout cas. Mes condoléances quoi, à sa famille, tellement découragé. Les mots me manquent, quoi, vraiment.
Il a été un homme courageux, un homme serviable. Franchement, de moi, de mon niveau, en tout cas, c'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire. Et c'est tout pour la jeunesse ivoirienne. Là, tout son combat était pour lutter pour la jeunesse ivoirienne. Vraiment désolé. Ça a été vraiment un coup dur pour cette jeunesse ivoirienne. Mais je ne sais pas si on pourra avoir un ministre dynamique pour pouvoir soutenir cette jeunesse encore. Vraiment, c'est le même moment, quoi. C'est difficile, c'est difficile. C'est une très grande perte. C'est vraiment que son âme repose en paix. Que Dieu fasse que la Côte d'Ivoire prospère.
Bon, son décès, là, ça me fait mal parce qu'il me plaît. Mais il est gentil, il est bon. Bon, ça me fait très mal.
C'était un homme humble, un homme gentil. Et je suis très, très généreux. C'est ce que je retiens de son parcours. Et puis, c'est un rassembleur, quoi. Je le voyais au moins comme celui qui pouvait faire que les Ivoiriens se donnent la main à la main.
C'était un homme de bien. Il a tellement aidé les enfants, les jeunes, surtout à Abidjan là-bas. Sa bonté, vraiment, moi-même, ça m'a touché. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais un peu déçu. Mais tout ce que Dieu fait, bon, c'est le destin de la vie. Mes condoléances.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Sénégal, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie annonce une nouvelle vague de poussière sur le pays. D'après l'ANACIM, il y aura des particules de poussière sur les régions nord, est et centre du pays, y compris donc Dakar, la capitale. Depuis plusieurs semaines, la poussière envahit Dakar par intermittence, causant des soucis aux personnes porteuses de maladies respiratoires. Dans notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Depuis quelque temps, la capitale devient grise ou poussiéreuse par moment, un aléa climatique qui a des conséquences sur les personnes qui souffrent de problèmes respiratoires, notamment les asthmatiques. Les enfants sont les plus vulnérables, nous dit Ibrahim Thiam, père de famille. Tous ses enfants sont asthmatiques.
Donc, nous avons pris nos précautions.
Nous avons pris nos précautions car nos enfants sont asthmatiques. La première alternative pour nous est de les garder à la maison le temps que tout redevienne normal. Je sais que cette pluie de poussière est un phénomène naturel qui va forcément passer, mais la poussière est l'ennemi des asthmatiques. Donc toute personne qui en souffre doit faire attention. Et cela est valable pour tout le monde car elle contient des bactéries et des germes. La poussière est nocive pour la santé. Personnellement, puisque mes enfants sont asthmatiques, nous avons pris la précaution de les isoler.
Aram est vendeuse de légumes. Son étalage est en plein air. Consciente qu'elle est très exposée, elle tente avec ses astuces de ne pas tomber malade à cause de la poussière car elle souffre de sinusite.
La poussière est insupportable et très dangereuse pour la santé. Il faut bien le couvrir la tête, les narines et la bouche. J'ai toujours mon écharpe sur sur la tête, mon masque en plus d'un mouchoir en tissu. Respirer cette poussière, c'est mettre sa vie en danger, car moi je souffre de maladies respiratoires.
Parole maintenant à un spécialiste. Il s'agit du docteur Mas Ndiaye. Avant de donner les bons gestes et les mesures à adopter destinées aux personnes qui souffrent de maladies respiratoires, notamment l'asthme, il parle de la dangerosité de la poussière sur leur santé.
Ce climat poussiéreux peut avoir des conséquences sur la vie de tous ces patients qui ont des maladies respiratoires chroniques. Et la bronchite chronique, surtout remarquée chez les personnes qui ont des antécédents de tabagisme. Les asthmatiques, vous savez que l'asthme, c'est une allergie chronique respiratoire qui se manifeste par une obstruction des bronches et que la personne a du mal à respirer.
En cette période où le climat poussiéreux est assez régulier, Dr Mas Ndiaye recommande aux sujets sensibles de prendre certaines précautions.
Réduire au maximum leur déplacement. Doivent, en sortant, il faudrait également que ces personnes ne fasse pas du sport durant cette période, parce que le sport également va entraîner une inhalation massive de cette poussière, surtout chez les asthmatiques. C'est le moment de respecter ce qu'on appelle le traitement de fond de l'asthme.
La vague de poussière qui enveloppe de manière récurrente Dakar cause beaucoup de soucis aux personnes atteintes de maladies respiratoires. S'il leur est recommandé de rester chez eux, certaines personnes vulnérables sont souvent obligées de s'exposer pour subvenir à leurs besoins. C'est Dina Abagé à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Les Africaines francophones sont parmi les lauréates du prix Femme de Courage du département d'État américain. La Congolaise Julienne Lusenge, présidente de Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégré, et la Camerounaise Maximilienne Ngombe, qui dirige le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. À travers son association, Madame Ngombe documente et dénonce des exactions commises par les séparatistes et les forces de sécurité camerounaises dans les régions anglophones. Jointe à Douala par Nathalie Barge, Maximilienne Ngombe livre d'abord sa réaction.
Ma réaction, elle est d'abord une réaction de fierté, d'humilité aussi, mais en même temps une réaction de peur. Parce que le département d'État américain qui m'a primé, je pense que c'est une lourde charge qu'il m'a mise encore sur les épaules, lourde responsabilité. Quand je regarde l'étendue de travail au niveau du Cameroun en particulier, dans les pays de l'Afrique centrale en général, est-ce que je pourrais? Tous les écrans sont braqués sur cette femme courage depuis que j'ai eu ce prix, des plaintes s'accumulent. J'ai peur de ne pas être à la hauteur.
Qu'en est-il justement de la situation dans votre pays, le Cameroun, notamment la crise anglophone? Pourquoi, selon vous, cette crise ne s'arrange pas jusqu'ici?
La situation au niveau du nord-ouest sud-ouest aujourd'hui est très alarmante. Il ne se passe plus un seul jour sans qu'il y ait des exactions commises par toutes les parties prenantes, que ce soit du côté des séparatistes, que ce soit du côté des forces de sécurité. Le viol est utilisé comme une arme de guerre aujourd'hui. On est arrivé à cette étape-là. Les arrestations se comptent par milliers. Je viens d'être saisi de l'arrestation d'une jeune fille de 14 ans qui est à la prison centrale de Douala depuis 2 semaines. On lui repose d'être entre guillemets empoisonnée et qui dort sur le sol à la prison et qui a été violée et serait enceinte. Et je suis convaincue qu'il y a d'autres que nous n'avons pas à notre portée. Et c'est depuis 2017 que nous avons élaboré une proposition qui est la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Pour nous, la justice, elle est sur deux étapes, la justice pénale ou civile et la justice transitionnelle. De plus en plus, on fait arrêter les exécutants, on leur donne 10 ans dans des procès à huis clos, nous ne pouvons pas observer. Et les commanditaires, tapis dans l'ombre, continuent, n'est-ce pas, à mettre en place leur stratégie pour perpétuer, n'est-ce pas, des exactions.
Pourriez-vous nous dresser un bref état des lieux des droits humains en Afrique centrale?
Lorsque vous partez à Mercia, vous allez voir qu'au-delà de la situation conflictuelle, on peut quand même féliciter le gouvernement Touadéra qui a, avec la société civile, donc le RENA, accepté notre proposition pour aller signer l'accord de paix et aujourd'hui sont dans le processus de mise en place de la Commission de vérité et justice et réconciliation. Maintenant, quand vous allez dans les pays où les présidents ont plus de 30 ans au pouvoir, comme le Congo-Brazzaville, où on va y aller d'ailleurs bientôt aux élections, vous allez constater que l'espace civique est fermé. Le Tchad, pareil, la Guinée équatoriale, pratiquement tous les défenseurs des droits humains en Guinée équatoriale sont en exil. Le Tchad, vous avez vu un président qui s'est autoproclamé maréchal, avec tout ce que cela comporte aujourd'hui. L'Afrique centrale est la plus fermée sur les institutions démocratiques. L'Afrique centrale est fermée sur la protection des défenseurs. À l'Afrique de l'Ouest, il y a plus de 5 pays qui ont adopté la loi portant protection des défenseurs. Ou en Afrique centrale, aucun pays, malgré tous les efforts de FEDER que nous avons fait, aucun pays n'a adopté cette loi-là.
C'était Maximilien Ngombe, présidente du REDAC, jointe à Douala, au Cameroun.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans son premier discours aux heures de grande écoute hier soir, le président Joe Biden a marqué le premier anniversaire depuis le début des fermetures généralisées aux États-Unis suite à la pandémie de COVID-19. Un an après, il a demandé l'aide des Américains pour relever les défis à venir. Patsy Widakuswara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, fait le point et c'est un récit de Lionel Gaïma.
Ça fait un an que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le COVID-19 pandémie mondiale. Depuis, plus de 2,6 millions de personnes en sont mortes dans le monde, dont au moins 530 000 aux États-Unis. Joe Biden, hier soir, aux heures de grande écoute.
We all lost something.
Nous avons tous perdu quelque chose. Une souffrance collective, un sacrifice collectif, une année de perte de vie et de perte de vie pour nous tous.
Dans son premier discours hier soir, au 50e jour de son mandat, le président Joe Biden a décrit les mesures que son administration prend pour vaincre le coronavirus, notamment en dépassant son propre objectif de 100 millions de vaccins au cours de ses 100 premiers jours.
En fait, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre cet objectif de 100 millions de doses à mon 60e jour au pouvoir. Aucun autre pays au monde n'a fait cela.
Biden a déclaré avoir ordonné à tous les États de rendre les vaccins accessibles à tous les adultes américains d'ici le 1er mai. Mais il fait face à un certain nombre de défis, dont la méfiance de certains Américains à se faire vacciner et le gouvernement de certains États qui préfèrent ignorer les directives fédérales en matière de santé. Parmi eux, le Texas, qui a levé le port obligatoire du masque et réouvert tous les bars et restaurants.
Un masque est la chose la plus simple à faire pour sauver des vies. Parfois, cela nous divise. Les États se dressent les uns contre les autres au lieu de travailler les uns avec les autres.
Les experts sont d'accord, les opinions sont très partagées sur les vaccins et les protocoles de santé ont été causés par la politisation et la polarisation extrême du pays, en particulier pendant les premiers jours de la pandémie. Catherine Baker, doyenne de l'école de sciences politiques Harris à l'Université de Chicago.
Les gens ont reçu des messages tellement contradictoires sur la santé publique et le climat a été tellement polarisé et qu'il y a réellement un manque de confiance du public dans la science, dans les messages de la santé publique. C'est vraiment compréhensible étant donné les messages contradictoires que les gens ont entendus. C'est l'un des revers durables de ça.
Un peu plus tôt hier, Joe Biden a signé le gigantesque programme d'aide de 1900 milliards de dollars. Des millions de familles vont recevoir un chèque de 1400 dollars par personne et les chômeurs vont continuer à recevoir jusqu'en septembre 300 dollars par semaine. Ce projet de loi a été adopté par le Sénat et cette semaine par la Chambre des représentants sans soutien des républicains. Kevin McCarthy est le chef de la minorité républicaine à la Chambre.
This isn't a rescue bill.
Ce n'est pas un projet de loi de sauvetage, ce n'est pas un projet de loi d'aide. C'est une longue liste de priorités de gauche qui sont antérieures à la pandémie.
Joe Biden va maintenant parcourir le pays à partir de la semaine prochaine pour vanter la loi qui vise à apporter un soulagement face au COVID-19. Son administration a déjà baptisé cette tournée « Help is here », autrement dit, l'aide est arrivée.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la mise en œuvre de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnon et Gisèle Morissin. À la présentation, Abdourahman Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.